Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, mesurer la radicalisation républicaine aux États-Unis à travers le débat de l'avortement et les conséquences de cette radicalisation sur les conservatismes au Canada. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier numéro du Monde d'aujourd'hui, votre nouvelle émission d'affaires publiques aux antennes de Radio VM. Aujourd'hui, on va parler de la radicalisation des droites aux États-Unis comme au Canada, avec le thème de l'avortement et le Parti populaire du Canada et ses perspectives pour les élections de la semaine prochaine. Notre première invitée est Véronique Pronovost de la chaire Raoul Dandurand. Doctorante en sociologie à l'Université du Québec de Montréal et membre de la chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux, membre du chantier sur l'antiféminisme du réseau québécois des études féministes. Avec vous, on va discuter du premier sujet de l'émission qui est l'utilisation de l'avortement dans la radicalisation de l'extrême droite américaine. C'est un sujet très important et surtout très d'actualité avec la loi texane sur l'avortement et les possibles futures lois qui seront prises par de nouveaux États républicains dans les prochaines semaines. Donc la première question pour vous, Madame Pronovost, c'est est-ce que cette loi elle interdit véritablement l'entièreté des avortements ou quel est le contenu de cette loi?
Bon, d'accord. Bonjour d'abord.
Bonjour.
La loi prévoit deux dispositions. Donc, d'un côté, on interdit les avortements au-delà de 6 semaines de grossesse, qui représente, là, grosso modo, 2 semaines de retard sur son cycle menstruel. Donc, ce qui signifie que la majorité des personnes enceintes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes au moment où elles perdent le droit de se faire avorter. Et la deuxième disposition de cette loi porte sur la manière de faire appliquer la loi, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, le Texas va accorder un pouvoir à n'importe quel citoyen qui serait témoin d'un avortement, d'une tentative d'avortement ou d'une personne qui sera en route vers un rendez-vous qui mène à un avortement.
Et c'est l'aspect le plus pernicieux de cette loi, on a pu lire, parce que c'est aussi même l'aspect qui lui a permis un peu de contourner l'arrêt Roe versus Wade de la Cour suprême, parce que la Cour suprême n'a pas voulu se prendre position parce que ce n'était pas l'État en lui-même qu'il faudra attaquer, mais les citoyens.
Exactement. Et donc, finalement, dans ce cas-ci, plutôt que de donner une autorité comme on le fait habituellement, donc à l'État, aux autorités, on va vraiment donner le droit aux citoyens de porter plainte contre toute personne qui aurait réalisé un avortement, qui aurait aidé à réaliser un avortement, ou à une personne qui aurait eu même l'intention d'aider à réaliser un avortement. Donc, par exemple, au chauffeur de taxi qui aurait donné un lift, finalement, là, à une personne qui se serait rendue à un rendez-vous.
Et même sans le savoir, le chauffeur du taxi, il n'y a même pas l'intention qui peut être... qui est pris en compte, c'est juste si une personne ou un citoyen se décide de dire « Ah, le chauffeur de taxi a déposé quelqu'un devant une clinique d'avortement », il pourrait, par exemple, expliquer et dénoncer cette personne pour dire « Il a potentiellement aidé, sanctionnez-le ».
Tout à fait. Donc, cette disposition-là, elle est particulièrement novatrice, cette disposition de la loi.
La loi prévoit des exceptions pour les grossesses provenant d'inceste, de viol ou dans le cadre de la protection de la vie de la mère?
Donc, non, dans ce cas-ci, effectivement, c'est aussi donc au-delà du nombre de semaines qui est particulièrement bas, de la disposition qui inclut, comme on vient d'en parler, les citoyens, c'est ce qui rend cette loi aussi restrictive. Donc, à part l'exception pour la protection de la personne enceinte, la protection de la vie, la loi ne prévoit aucune exception en cas de grossesse qui serait le produit d'un viol ou de l'inceste, qui est notamment là, ce qui est particulièrement la norme, même du côté des républicains, règle générale.
Donc, on va dire souvent dans ce cadre de loi, même on va dire la majorité du temps, voire la totalité du temps dans le cadre de ce genre de loi, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par cette loi, mais néanmoins, et surtout avec les disparités américaines, on va se retrouver avec une certaine autre population de femmes qui sera plus touchée, j'ai pu lire, les femmes pauvres, des femmes provenant des communautés racisées, et non souvent des femmes riches qui auront l'argent de pouvoir éviter cette loi, les conséquences de cette loi, et pouvant se déplacer dans d'autres États, on peut déjà commencer à le voir en ce moment.
Comme tu le dis si bien, quand il y a des lois comme ça qui touchent des enjeux sociaux et qui dégradent le filet social qui sont mis en place, on peut s'attendre à ce que les personnes qui soient le plus touchées soient celles qui se trouvent aux marges, donc les personnes les plus défavorisées, qui sont touchées en premier lieu. L'accès à l'avortement était au Texas était déjà un enjeu bien majeur avant que cette loi soit mise en place. Donc là, on constate qu'il y a des médecins qui pratiquent au Texas, qui commencent à s'organiser pour obtenir la certification qui est nécessaire pour leur permettre de pratiquer des avortements dans les États qui sont autour. Mais bien évidemment, c'est pas pas tout le monde qui va pouvoir se rendre dans les États voisins pour pouvoir avoir accès aux services. Et là, évidemment, on peut penser aux personnes à faible revenu pour les questions de transport, qui était déjà un enjeu majeur à l'intérieur même de l'État. Donc, ces personnes qui vont devoir prendre congé ou carrément prendre des vacances pour pouvoir obtenir ce service de santé, mais aussi aux personnes sans papier. Hein. Il y en a quand même un bon nombre au Texas qui se trouve, c'est un des États limitrophes du Mexique. Oui. Mais donc, ces personnes qui vont devoir prendre un risque absolument important pour pouvoir traverser les frontières d'un État sans avoir les papiers nécessaires. Et on sait que les services d'immigration sont extrêmement présents, exactement, là, tout au long de la frontière.
Et en plus, cette loi, elle veut aussi sanctionner les personnes qui franchissent les lignes d'État pour pouvoir faire un avortement en dehors du Texas. Donc, on a une double possibilité de sanction pour ces personnes qui sont assez fragiles face à cette loi. Et en plus, si on prend en compte les États autour du Texas, à part le Nouveau-Mexique, on va dire que la majorité des États sont des États qui, on regarde avec attention comment la loi se passe et comment les débuts d'application de la loi se passent pour eux aussi faire une loi similaire.
Tout à fait, tout à fait. Et au-delà des États qui sont seulement autour, il y a d'autres États qui éventuellement pourraient copier ou en tout cas s'inspirer, disons, de cette loi. Je pense notamment à la Floride, avec leur gouverneur Ron DeSantis, qui est un des protégés de Donald Trump, qui est un aspirant aux primaires républicaines éventuellement. Et c'est un État qui a une trifecta. Donc, où est-ce que le Parti républicain domine finalement exactement l'État, la législature d'État. Donc, effectivement, là, il y a plusieurs États dans le sud des États-Unis actuellement qui sont à surveiller, notamment en matière d'avortement.
Donc, revenons un peu sur les conséquences politiques de cette loi et surtout sur comment elle caractérise une sorte de radicalisation de la droite et de l'extrême droite aux États-Unis. On sait que l'avortement a souvent été dans les grands dossiers des guerres de culture chères aux conservateurs américains. Néanmoins, il semble, surtout depuis la défaite de Donald Trump, que cette guerre de culture est passé à un stade supérieur. Donc, tout d'abord, est-ce que cette loi est la plus restrictive concernant les avortements? Mais surtout, pourquoi l'inclusion de l'avortement dans tous ces sujets à forte tendance conservatrice?
Donc, d'abord, effectivement, en ce moment, cette loi qui vient tout juste d'être mise en application il y a donc quelques jours, quelques semaines, c'est la loi la plus restrictive qu'il y a en ce moment en vigueur aux États-Unis. Ça fait un bon moment que le Texas est un laboratoire pour tester l'application et la constitutionnalité des lois restrictives en matière d'avortement aux États-Unis. Et donc, cette loi-ci n'en fait pas exception. Ensuite, bon, c'est pas d'aujourd'hui que l'avortement est un sujet, justement, un peu issu de ces guerres culturelles aux États-Unis. Le mouvement contre l'avortement a commencé à s'organiser pendant les années 60, et déjà à la fin des années 70, au début des années 80, il faisait partie intégrante du mouvement conservateur et religieux, qui sont des mouvements qui sont bien plus larges que le mouvement contre l'avortement lui-même. Et donc, dans ces milieux-là, l'avortement représente une menace directe aux valeurs familiales et traditionnelles, et à la vision qu'on se fait du rôle des hommes et des femmes dans la société, ce qui explique en fait que ce mouvement ait intégré aussi rapidement le conservatisme américain. Donc, l'avortement est considéré comme, ou en fait est associé, ni plus ni moins à la libération sexuelle et donc à la libération des femmes, et l'avortement comme plusieurs autres gains sociaux comme le divorce, les droits LGBTQ+, par exemple, vont être perçus comme étant dangereux moralement pour l'évolution de la société.
On parle de cette loi et de l'utilisation de cette loi dans un cadre plus général pour le mouvement conservateur pour arriver à créer un chaos inconstitutionnel qui permettrait un peu aux États dits conservateurs de pouvoir faire ce qu'ils veulent sur ces questions morales et sur d'autres questions économiques mais proches du système conservateur comme par exemple les droits des travailleurs. Est-ce que c'est l'objectif souhaité du mouvement conservateur d'utiliser cette loi pour faire un chaos inconstitutionnel? Et surtout, pourquoi ces raisons de radicalisation poussées à outrance, on va dire, dans les derniers mois, cette volonté d'accélération de ce phénomène de radicalisation et de volonté de chaos inconstitutionnel?
Ça fait déjà quelques années qu'on entend le mouvement contre l'avortement parler de l'ouverture de cette fameuse fenêtre d'opportunité que ça fait en déjà 50 ans, là, pratiquement, qu'on attend pour pouvoir renverser Roe contre Wade, notamment cette légalisation du droit à l'avortement aux États-Unis. Et donc, avec la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui était juge à la Cour suprême à la toute fin du mandat présidentiel de Donald Trump, cette fenêtre d'opportunité s'est finalement produite. Les conservateurs détenaient déjà une majorité, une courte majorité, mais une majorité à la Cour suprême des États-Unis. Et avec la mort de Ruth Bader Ginsburg et la nouvelle nomination que Donald Trump a effectuée, ils ont obtenu une super majorité à la Cour suprême, ce qui est somme toute assez rare, puisque les présidents aux États-Unis tentent habituellement de maintenir un certain équilibre à la Cour suprême. Et donc, les législations ultra-restrictives contre l'avortement ont commencé à être adoptées encore plus massivement dans le but avoué, c'était vraiment très transparent de la part des conservateurs, d'être contestés devant les tribunaux et que finalement, l'une de ces pièces de législation se rende à la Cour suprême et conteste de manière beaucoup plus frontale les conclusions de Roe contre Wade. Oui. Et c'est actuellement ce qui se passe, en fait, avec justement un dossier qui s'appelle Dobbs contre Jackson Women's Health, qui est une loi du Mississippi, qui est finalement dans le docket de la Cour suprême pour cet automne, qui va être vérifié, qui va être finalement, là, pas vérifié, mais qui va être étudié cet automne, et qui devrait finalement y avoir un arrêt qui soit déposé au printemps ou à l'été prochain.
On aurait pensé que la défaite de Donald Trump aurait poussé les républicains, que ce soit au niveau national comme au niveau des États, un peu se calmer sur leur volonté de changement, sachant surtout que la population tend de moins en moins à supporter ce mouvement conservateur. Néanmoins, on voit pas ça, on voit plutôt une accélération. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Pourquoi pensez-vous que ça continue alors que Donald Trump semble a perdu et semble ne pas garder autant de pouvoir qu'il pensait pouvoir garder après sa défaite?
Ben, il faut regarder notamment du côté du système électoral. Hein. Il y a énormément de lois qui ont été mises en place, encore une fois, pour ces fameuses lois qui restreignent, encore une fois, l'accès au droit de vote. Donc, d'un côté, je pense que ça fait partie notamment d'une des pistes à observer, mais on parle aussi souvent du vote des femmes, donc comme si les femmes votaient unilatéralement pour les démocrates, de la même façon du vote latino, comme si les latinos votaient d'une seule manière. Et je pense que ce que les dernières élections, les derniers cycles électoraux nous ont montré, c'est à quel point cette image un peu idéalisée du vote des femmes, du vote latino n'existe pas. Il y a une très grande fragmentation de ces votes. Il faut en tenir compte beaucoup plus dans nos analyses et dans notre manière de concevoir justement ces notions, pour justement finalement se rendre compte que la composition de l'électorat, oui, elle est importante pour comprendre comment justement tout ça évolue, mais ça ne vient pas déterminer, hein, l'identité finalement ne vient pas déterminer de manière très très précise comment les gens viennent voter. Et finalement, il y a aussi toute la question du cynisme au sein de la population, c'est peut-être le dernier élément, et de venir comprendre que ce sont seulement les personnes les plus mobilisées qui sortent voter. Et justement, ben, ça vient encore une fois montrer que ben, ce sont finalement les personnes les peut-être les plus, je vais dire le mot radicalisé, mais c'est pas un mot que j'aime particulièrement, mais disons que ce sont les personnes qui sont les plus convaincues qui vont aller voter.
Au niveau de cette dérive ou cette dérive du Parti républicain vers l'extrême droite, sur un aspect plus large au niveau de la vision politique aux États-Unis, est-ce que vous pensez que cette dérive peut être stoppée ou ralentie? Est-ce que vous pensez que des têtes républicaines plus modérées, plus centristes à la George W. Bush ou à l'ancien leader de la majorité Paul Ryan pourrait réussir un peu à calmer ce mouvement? Ou est-ce que vous pensez qu'on est vraiment rentré dans une accélération du mouvement et que ce n'arrivera à son terme que quand ce mouvement aura réussi son travail ou sera défait?
Je trouve ça intéressant comme question, puis surtout la manière dont tu poses la question. Tu parles de dérive. C'est certain que quand je parle avec les personnes que j'étudie, il n'y a pas le mot dérive. Hein. Je suis allée dans plusieurs événements conservateurs. J'ai discuté avec énormément de personnes issues de ces milieux ultra-conservateurs religieux. Et ces personnes, ils ont une vision du monde, de ce qui est bien, de ce qui est souhaitable. Et je suis évidemment pas en train de dire que je suis d'accord avec leur
vision. Une vision très évangélique.
Oui, exactement. Je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec leur vision, leur point de vue, ou surtout pas les stratégies qu'ils déploient pour faire avancer leur agenda politique. Mais je pense que dans tous ces débats, et surtout dans le contexte de polarisation, il faut faire attention à la diabolisation de l'autre. Et même si mes positions sont claires et assumées, j'essaie toujours de comprendre les valeurs et les idées qui guident les personnes que j'étudie. Et sur le fond de ta question, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans une guerre de tranchées. Et qu'en ce moment, il n'y a personne qui veut céder un centimètre de terrain. Et que chaque fois qu'un côté va effectuer un gain, l'autre côté va mettre en place un plan pour regagner ce centimètre, voire idéalement 2-3 centimètres de plus. Et donc, que d'un côté comme de l'autre, je pense que ce n'est pas gagné du tout.
Une petite question bonus pour terminer l'entrevue. On voit un peu souvent la transmission des valeurs et des idées conservatrices au Canada. Maintenant, le conservatisme au Canada s'exprime plutôt en déconservatisme, surtout avec l'apparition du Parti populaire du Canada. Est-ce qu'on peut s'inquiéter ou est-ce qu'on peut penser qu'il y a pourrait avoir une possible transmission de ce genre d'idées pour ce nouvel électorat et pour ce nouveau parti? Ou est-ce qu'on le Canada est trop à part comparé aux États-Unis pour que même le Parti populaire du Canada refuse pour vous d'accepter des idées conservatrices d'anti-avortement et d'anti-science telles qu'elles sont exprimées par le Parti républicain actuellement?
Je pense qu'il faut toujours faire attention quand on fait des comparaisons entre le Canada et les États-Unis sur ces questions-là. Je pense qu'il y a définitivement un terrain assez fertile pour ce genre de discours et d'idées. Mmh. Par contre, c'est toujours une question d'ampleur, d'intensité, d'organisation et de structure. Donc oui, il y a peut-être une place pour les idées, mais à l'heure actuelle, il faut vraiment être assez réaliste sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement de structure, de parti qui incarne et qui parvient à faire passer ces idées-là d'une manière efficace. Donc le score électoral donc par exemple du PPC donc demeure vraiment marginal à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'alliance solide entre les différents types de conservatisme à l'heure actuelle, donc entre les différents partis qui représentent ces tendances. Le Parti conservateur du Canada demeure prend ses distances par rapport, par exemple, à des médias comme Rebelle. Donc, de voir que justement, il y a encore une certaine fragmentation entre ces différents acteurs, ça me permet, en tout cas, de mon côté, de me dire que on n'est pas du tout les États-Unis encore. Mmh. Il faut quand même être assez réaliste de voir que oui, il y a peut-être un terrain festif, peut-être que les idées sont quand même véhiculées, il faut être assez sur nos gardes, mais les comparaisons doivent demeurer, oui, c'est ça.
Demeurer assez petites et faibles. Je vous remercie, Madame Pronovost, d'avoir répondu à mes questions ce midi.
Ça me fait plaisir. Passez une belle journée.
Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, mais vous êtes surtout membre de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et membre du chantier sur l'antiféminisme du réseau québécois en études féministes. On se retrouve dans un instant avec M. Alain Lamoureux pour discuter du Parti populaire du Canada. Notre deuxième invité, c'est André Lamoureux, professeur enseignant au département de sciences politiques de l'UQAM. Bonjour, monsieur Lamoureux.
Oui, bonjour, monsieur Corona.
Donc, on va discuter avec vous du Parti populaire du Canada. On avait pu discuter dans la première entrevue de l'émission de la radicalisation un peu des idées de droite aux États-Unis. Et on va pouvoir discuter de est-ce que le Parti populaire du Canada est un peu une sorte de miroir de cette radicalisation au Canada. On avait pu échanger en cas de préparation d'entrevue que c'est peut-être un peu faible ou un peu fragile de dire ça et qu'il y a beaucoup d'autres choses en arrière qu'on va pouvoir développer sur ces points. Donc tout d'abord, pourquoi le Parti populaire du Canada se retrouve en meilleure posture qu'il y a 2 ans?
Oh, ben regardez, c'est qu'il y a, en fait, Monsieur Bernier, Maxime Bernier, en fait, a fondé son parti, moi, il y a quelques années. Il n'a pas eu beaucoup de voix, très peu de voix, là. Au Québec, c'était comme, je pense que c'était 1,5%
des voix, là. Quelques donc, centaines de milliers au maximum.
Oui, c'est ça. Et puis, au Canada anglais, ben, il y a eu quand même plus de voix en Alberta. En fait, ce qu'il cherche à faire, Maxime Bernier, avec son parti, c'est regrouper, en fait, une droite qu'on pourrait qualifier de libertarienne, sans nul doute, là. Et puis, une droite qui existe au Canada et d'autres pans de la droite, surtout à droite du Parti conservateur qui existe présentement. Et puis, il faut dire ceci, c'est pas une chose qui est arrivée comme tout d'un coup, subitement, en 2019. Il faut se mettre dans l'idée, dans la perspective que la droite qu'on appelle aujourd'hui libertarienne, elle s'est développée en Europe, mais elle s'est développée aussi aux États-Unis, mais même au Canada, surtout dans l'Ouest canadien.
Le Parti réformiste.
Le Parti réformiste, c'est plus la droite sociale. Conservatisme social. Tom Flanagan expliquait que l'exploit du Parti réformiste et aussi surtout de Stephen Harper en fusionnant les deux partis, c'était d'avoir fusionné le conservatisme socio-économique et le conservatisme social qui a beaucoup de racines en Alberta. Mais la droite alternative, libertarienne, c'était le Wild Rose Party, l'Alberta Alliance, et ensuite c'est devenu le Wild Rose Alliance en 2010 jusqu'en 2017, et qui défendait des positions similaires même à ce que aujourd'hui Maxime Bernier défend. Par exemple, si on parle de la question du libre-échange, les privatisations, baisser les impôts sur le revenu. Alors il y avait beaucoup de prises de position qui allaient dans le même sens sur la négation des changements climatiques. C'est une position de Maxime Bernier. Maxime Bernier, lui, il ne les nie pas, mais il dit que c'est pas dû à l'activité humaine. Mais disons que c'est ça qu'il représente. C'est vraiment un libertarien. Quand il veut, il dit, je veux privatiser...
Il veut enlever l'implication du fédéral dans beaucoup d'affaires pour permettre plus de droits.
Il veut privatiser Poste Canada, par exemple. Alors donc, dans la séquence du mouvement, que je dirais, néolibéral, si l'on peut dire, dans les années 80, c'était bien connu, en fait, il y a eu comme un pan dans cette droite-là qui est devenu encore plus prononcé que le néolibéralisme. Et qui visait à mettre à néant tous les acquis, en quelque sorte, de l'État-providence.
Disons, quand Reagan a dit l'État, c'est l'ennemi, eux l'ont compris de manière encore plus prononcée.
Oui, d'une façon littérale.
Au niveau de l'électorat, en général, du Parti populaire du Canada, on dit souvent que c'est une sorte d'agrégat de multiples composantes, un agrégat cosmopolite. Cet agrégat, en 2021, on a les anti-vaccins, les anti-systèmes, des libertariens, des conservateurs sociaux. Est-ce que c'est un agrégat qui, pour vous, peut rester assez fort et tenir sur la durée? Ou est-ce que vous pensez qu'à la suite, par exemple, d'une fin de crise sanitaire, cet agrégat va se séparer parce que les anti-systèmes ou les anti-vaccins vont trouver un nouveau cheval de bataille qui sera probablement pas en rapport avec
ce qu'on constate, c'est que depuis un an ou deux, Maxime Bernier n'était pas contre l'avortement. C'est pas un conservateur social. C'est même pas l'extrême droite. Là. Attention, quand on dit l'extrême droite, l'extrême droite, là, à mon sens, c'est le fascisme. Puis le fascisme, là, c'est la violence totale avec des bandes armées dans les rues qui tuent des gens, qui rentrent dans les logements. Faut faire attention. Mais c'est un libertarien. Il était pas contre l'avortement. Il est pas lui-même, je pense, contre l'aide médicale à mourir non plus. Mais cependant, depuis un an ou deux, il sait qu'il doit élargir son bassin d'appui. Alors donc, il cherche à aller chercher ces conservateurs sociaux. Par exemple, les prises de position qu'il a avancées sur l'avortement en 2019, à l'effet que là, il serait d'accord à limiter l'exercice du droit à l'avortement, il pourrait être exercé jusqu'à la 20e semaine, mais après, on pourrait l'interdire. C'est qu'il essaie de plaire à
une frange un peu plus sociale.
Oui, c'est ça, exactement. Mais alors, il y a un gros débat là-dessus, là, mais c'est quand même pas la position du Parti réformiste anciennement. Là. Mais sur la question, par exemple, des armes à feu, là, il rejoint tout à fait cette clientèle. Même qui dit que pour lui, AR-15, il n'y a pas de problème.
C'est ça, c'est assez drôle parce qu'on peut voir que M. Bernier change un peu ses opinions, ou plutôt modifie ses opinions de manière publique. Ses opinions publiques pour plaire à une frange d'électorat afin d'augmenter sa base.
Là, il se met de plein pied dans la bataille contre les vaccins. Nom de l'individu, justement, libertarien, ma liberté, comme on dit au Québec, ma liberté. Hein?
Oui. Mais il doit voir un peu les sondages parce que j'avais vu un sondage, je ne sais plus si c'était Echos ou Main Street, qui expliquait que plus les électeurs canadiens suivent un peu les idées dites Trumpistes ou la nouvelle droite républicaine, plus ils sont enclins à voter pour le PPC, plutôt que le Parti conservateur, parce qu'ils n'aiment pas ce recentrage du Parti conservateur sur une autre.
Sûrement, mais il faut faire une adéquation entre quand même, il faut faire attention, il faut y aller avec précision, subtilité. Maxime Bernier, c'est pas Donald Trump.
Oui, totalement.
Faut faire attention. Écoutez, moi, j'ai lu le livre de Mary, sa nièce, là. Mary Trump. Là. Écoutez, elle traite de Donald Trump de brut, tyran, sociopathe, manipulateur. Là, c'est un narcissique. Quasi psychotique, là, manipulateur. On n'est pas dans ce terrain-là avec mais Maxime Bernier essaie d'utiliser cette cause anti-vaccin pour la récupérer pour son propre parti. Quand il a lancé sa campagne au mois d'août dernier, il a dit qu'il voulait faire campagne contre la tyrannie médicale au Canada.
Oui.
Mais voyons, il n'y a pas de tyrannie médicale au Canada.
Et là, hier soir, il a profité aussi des annonces en Alberta pour dire qu'il va se rendre en Alberta, terminer la campagne, afin de lutter contre le despote Jason Kenney. C'est assez drôle d'entendre le mot despote mot de Jason Kenney.
Oui, c'est vraiment une exagération, c'est peu dire. Hein. Donc, c'est vraiment l'utilisation de façon populiste, disons, de ce qui se passe par rapport à la question du vaccin. Mais sur d'autres mais donc, il va chercher le lobby des armes à feu. Mmh. Mais il y a aussi au Canada anglais, il y a quand même des gens qui s'opposent au multiculturalisme. On parle souvent de ça au Québec, mais il y en a au Canada anglais qui s'opposent à ça. Il va les chercher. Il veut abolir la loi sur le multiculturalisme au Canada. Il dit que le multiculturalisme extrême, c'est dommageant, notamment du côté des intégrismes religieux. Il veut abolir, révoquer la motion M113, là, qui appelle à discuter, à combattre les discours haineux et le racisme systémique au Canada. Mmh. Donc, il va chercher beaucoup de gens au Canada anglais qui partagent ces opinions sans nécessairement être d'extrême droite, là, mais donc il essaie de ratisser à gauche, à droite, façon à passer de 1%, je sais pas, 2, 3. Lui, s'il fait le score de 7% là, cette fois-ci,
Qu'est-ce qu'il irait chercher comme électeur quand il, par exemple, il propose des propositions un peu comme on peut voir aux États-Unis, des poll watchers dans les bureaux de vote, un système de recall comme en Californie? Quel type d'électeur il souhaite aller chercher en utilisant ça?
Ben, ça, c'est vraiment. Il y a beaucoup de points chez Maxime Bernier qui rejoignent évidemment en Trump. L'offre, il dit qu'il veut abolir la gestion de l'offre, là. Ben, je veux dire, même ça, il disait ça depuis. Il disait ça depuis quand il était ministre. Et l'IPA, là, l'IPA, le congrès de 2014, il est allé, là, puis les agriculteurs étaient tous nerveux, là. Ouais. Là, il avait dit, oh, attendez. Mais on l'a vu après quand il est devenu candidat à la direction du parti. Il l'a dit, là, il voulait démanteler la gestion de l'offre. C'est pour la raison pour laquelle il a perdu la chefferie. C'est clair. Mais quand il prend des positions comme ça, là, il est directement sur le terrain. Il fait plaisir. Il faisait plaisir à ce moment-là à Donald Trump, c'est évident. Alors, donc, se situait sur son propre terrain.
Dernière petite question. Où vous voyez le Parti conservateur, le Parti populaire du Canada lundi prochain? Est-ce que vous pensez que, surtout avec les récents développements en Alberta, qu'on va avoir une poussée, comme il dit souvent sur Internet, une purple wave?
Ben, selon les sondages, il y aurait une petite poussée en Alberta. J'ai vu même les meetings publics qu'il a fait. Il semble avoir plus d'appui qu'en 2019 même. Mais je ne pense pas que le PPC va aller très, très, très loin. Bien qu'il puisse, comme petit parti, faire des dommages au Parti conservateur, je dirais, dans certaines circonscriptions où ce vote-là est plus marqué. À ce moment-là, ça pourrait nuire à des candidats conservateurs, bien entendu. Mais c'est surtout que la crise sanitaire, elle va passer. On ne sera pas pris avec ce virus, j'espère, pendant 5 ans. Là. Mais une fois que cette crise-là sera passée, ben, ça va donner moins de
force et de vigueur à l'électorat.
Oui, mais de potentiel de développement aussi. Mais là, ils l'exploitent à fond de train, là, effectivement. Je trouve ça délirant. Là, on verse directement là, dans des comportements de secte.
Ben, je vous remercie, M. Lamoureux, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Ça me fait plaisir.
Je rappelle que vous êtes professeur enseignant au département de sciences politiques de l'UQAM et que vous intervenez souvent dans différents médias pour parler de politique fédérale. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde d'aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de revenir sur les résultats des élections fédérales de lundi. Bonne journée à vous.